Dissolution française. L'euro est-il en risque sur le marché des changes? Faisons un peu d'histoire et passons en revue tous les baromètres du risque à suivre sur le marché. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Le taux de change de l'euro est-il en risque de forte baisse suite à la dissolution française et à cette incertitude politico-économique qui s'ouvre et qui va durer au moins jusqu'au début du mois de juillet? Chers amis, vous savez, il y a un précédent. Il y a un précédent, oui, c'est peut-être assez ancien désormais. 10 à 15 ans, la crise de la dette souveraine qui éclata en Europe à l'époque, fin 2009, et qui dura 2, 3, 4 ans par étape. À l'époque, la France n'avait pas été concernée par cette crise de la dette souveraine en Europe, essentiellement centrée sur la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, Chypre et l'Irlande. Six pays qui ont été sauvés par des prêts de l'Union européenne, par la Banque centrale européenne, par, à l'époque, des plans de sauvetage du FMI. Six pays qui ont souffert, à la base, tout était parti de la crise financière de 2008. Bon, bref, revenons au sujet. L'euro est-il en risque avec la dissolution française? Vous savez, la France, ce n'est pas Chypre, ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas la Grèce. La France, c'est la deuxième économie de la zone euro. Si la France tombe, c'est clairement l'euro qui tombe. À l'époque, la France avait échappé, même si ses taux d'intérêt avaient monté, la France avait échappé, n'avait pas eu besoin de plan de sauvetage. La France n'avait eu besoin de rien, enfin de rien. Naturellement que la Banque Centrale Européenne avait acheté des obligations de toute la zone euro, d'une certaine façon. C'est à l'époque la Banque Centrale Européenne qui avait protégé la France. Mais voilà, depuis l'annonce de la dissolution française, le CAC 40, il a droppé. Je vous en ai parlé dans le Top Gun, je vais en dire un mot sur le plan technique. Le taux de change de l'euro a été un peu mis sous pression. Il a dû perdre une centaine de pips. Oui, parce qu'entre-temps, la chute du taux de change euro-dollar a été freinée par la reprise de la désinflation aux États-Unis. Ça, c'est ce qui met la pression sur l'USD. Vous savez, dans euro-dollar, il y a devise principale, c'est l'euro, devise de contrepartie, l'USD. Mais globalement, le taux de change de l'euro a été sous pression. Vous avez, par exemple, noté le rebond du franc suisse, c'est-à-dire la baisse de l'euro CHF. Enfin, voilà, un certain nombre d'éléments liés au risque politico-économique, liés au risque de voir la France, déjà un pays surendetté, qui n'a pas eu d'équilibre budgétaire depuis 50 ans. C'est depuis la fin des années 60, début des années 70, 1900, que la France n'a pas eu un budget à l'équilibre. Et cette série, cette addition année après année des déficits budgétaires vient créer ce qu'on appelle une dette publique, qui en France, maintenant, doit représenter 110-115% du PIB. Finalement, c'est comme aux États-Unis. On est loin aussi du Japon qui est à 250%, mais tout de même, il existe un risque de voir la France ne plus accéder. Qu'est-ce que c'était la crise de la dette souveraine à l'époque, en 2011? C'était des pays qui n'accédaient plus aux marchés financiers. Des États de l'Europe, de la zone euro, qui se présentaient sur le marché du crédit. Par exemple, en France, c'est l'Agence du Trésor qui se présente sur le marché du crédit pour lever des fonds, faire de la dette via des obligations d'État. Et les pays, la finance mondiale, les capitaux mondiaux ne voulaient plus prêter à ces pays. Est-ce que la France est menacée de ça? En fonction du choix politique qui sera fait par les Français fin juin et début juillet, la France est-elle menacée de ne plus accéder au marché du crédit? Alors qu'elle a besoin d'emprunter, ne serait-ce que pour financer la charge d'intérêt de la dette en cours. Vous imaginez le problème. Bon, dans le pire des cas, on sait que la BCE arrive, qu'elle achète tout ce qu'il faut. Ok, très bien, mais bon, enfin, pas certain que tout le monde soit d'accord. En même temps, si la France tombe, c'est un risque systémique. Systémique. Déjà, la Grèce, en l'état, était un risque systémique. Pourquoi? Parce que les banques européennes étaient impliquées en Grèce et dans la dette grecque. Donc, il faut bien comprendre que si c'est la France qui tombe, c'est la zone euro qui tombe, ce sont toutes les banques mondiales qui ont prêté à la France. Enfin, voyez un peu, la réaction enchaîne. Donc, il existe un risque systémique. Donc, dissolution, l'euro est-il en risque? On va faire un peu d'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Il y a un précédent, cette fameuse crise de la dette souveraine en Europe. Il y avait eu un impact sur les taux du marché. On va voir tous les baromètres du risque. Écoutez, c'est parti, on ne perd pas davantage de temps. Dissolution, l'euro est-il en risque? Tous les baromètres du risque, je vais les passer en revue. Les passer en revue. Alors, le programme s'affiche sous vos yeux. La France avait été épargnée, oui, par la crise de la dette souveraine en Europe au début des années 2010. À l'époque, concentrée sur la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et Chypre. Oh, le bel euro qui se brise, mais qui n'est pas encore brisé. Vous savez, la messe n'est pas dite. Il ne faut pas sauter à pieds joints dans les articles de la presse financière qui nous annoncent l'effondrement. Nous verrons. Et c'est justement parce que nous verrons que je vais vous proposer 1, 2, 3, 4, 5 baromètres du risque à suivre en bourse, d'ailleurs sur lequel on peut, nous pouvons, au moins faire d'analyse en tendance et même pratiquer de l'analyse technique des marchés financiers. Un précédent, la crise de la dette souveraine en Europe en 2010-2011. Dissolution française, premier baromètre du risque à suivre, le spread de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer. Dissolution française, le taux obligataire de la France. Vous savez, au 19e siècle, mais on était voilà, jusque dans les années 1860-1870, à l'époque en 1870, la France a perdu la guerre contre la Prusse et tous les États allemands, mais entre la Révolution française et 1870, on disait que lorsque la France éternuait, l'Europe s'enrhumait. Lorsque la France éternuait, l'Europe s'enrhumait. Et là, on revient un peu à ça, et on parlait de ça, lorsque la France éternuait, l'Europe s'enrhumait, c'était déjà pour des raisons socio-politico-économiques. Donc là, nous y revenons, et la France fait à nouveau la une de même la presse financière anglo-saxonne, moi qui la parcours tous les jours, je vous garantis que ce n'est pas des bêtises. Donc, c'est un sujet pour la finance mondiale, en tout cas, au moins pour la finance occidentale. Alors, l'euro est-il en risque? La réponse, elle vient du marché du crédit. Encore une fois, l'euro est en risque si le marché du crédit mondial se ferme à la France. Pour le mesurer, vous avez des baromètres, et en particulier du côté des taux d'intérêt. Mais pas des taux d'intérêt absolus de la France. Oui, il faut les suivre. Mais surtout, les spreads de taux obligataires, c'est-à-dire la différence entre le taux obligataire de la France et celui qui est considéré comme en Europe le plus safe, celui de l'Allemagne. C'est vrai que la dette publique allemande est moins élevée en rapport à son PIB, elle a encore une industrie solide, elle est plus riche tout simplement, plus puissante, enfin sur le plan économique. Non, parce que s'il y a un affrontement armé, je pense que cette fois-ci c'est la France qui gagne, hein, ne serait-ce que par sa dissuasion, enfin sa frappe nucléaire même. Ça n'arrivera pas, bien sûr. Ok, alors, dissolution française, auto-change de l'euro, le positionnement institutionnel, le CAC 40, voici tous les baromètres que nous allons passer en revue. La crise de la dette souveraine en Europe des années 2010 et 2011 avait épargné la France. Oui, la France y avait échappé. Vous avez ici un petit tableau où je me suis amusé à remettre un peu tout ce qui s'était passé. Mais déjà, concrètement, regardons sur les marchés financiers, que s'était-il passé à l'époque, au moment de la crise de la dette souveraine. Nous allons passer ici en données mensuelles. Vous avez sous les yeux, à gauche, un graphique qui expose les bougies japonaises mensuelles du taux de change de l'euro-dollar, et à droite, en daily. Et donc, voilà, à l'époque, la crise de la dette souveraine en Europe, elle a eu lieu de 2009 à, allez, un bon 2013-2014. En réalité, il y a eu deux temps. Vous avez eu tout d'abord, tout a commencé par la Grèce. Alors déjà, cette crise de la dette à l'époque a fait suite à la crise financière mondiale de 2008, qui est venue affaiblir les économies occidentales. Il a fallu, à l'époque, intervenir. Les États, les banques centrales, les États ont fait énormément de dettes. Ça, c'est la base, tout est parti de là. Et la plupart de ces pays qui n'avaient pas une croissance économique suffisamment forte ont fait de la dette, mais la croissance économique n'a pas permis d'éponger cette dette. Les taux d'intérêt ont donc monté, la croissance économique potentielle n'était pas suffisamment élevée, et est arrivé un moment où les économies les plus faibles, en particulier la Grèce, étaient engluées par l'addition des déficits budgétaires, par une importante dette publique, et les capitaux mondiaux ne voulaient plus prêter. Tout a commencé donc en avril 2010 par la Grèce qui demande un plan de sauvetage auprès de l'Union Européenne et du FMI. En 2010, on accorde à la Grèce un premier plan de sauvetage. En novembre 2010, c'est l'Irlande qui demande un plan de sauvetage de 85 milliards d'euros. En avril 2011, ce fut le Portugal qui demanda un plan de sauvetage de 78 milliards d'euros. Et puis ensuite encore la Grèce. Alors, l'Espagne, en 2012, elle a simplement fait appel à une aide de l'Union Européenne. Alors, entre-temps, n'oubliez pas, entre-temps, la BCE... C'était le quantitative easing. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous à l'époque, Mario Draghi, le whatever it takes, c'était l'achat no limit des obligations d'État. Donc voilà, c'est à l'époque, cette crise de la dette souveraine en Europe, qui est née à la base dans la crise financière de 2008, qui nous vient des Statos, eh bien, cette crise de la dette souveraine en Europe, elle a été sauvée par l'Union européenne. Bon, enfin, en gros, parce qu'il y a l'Allemagne, on a pu avoir des financements à l'échelle européenne. Le Fonds monétaire international, il ne faut quand même pas oublier ça, que des États européens ont bénéficié. Il y en a là qui s'amusent déjà à écrire que la France sera bientôt sous perfusion du Fonds monétaire international. Bon, bon je ne crois pas, mais d'abord, c'est la Banque centrale européenne qui interviendra. Et c'est la Banque centrale européenne qui a permis à l'époque, par d'une certaine façon mutualisation de la dette, de sauver l'euro. Alors, ensuite, je reprends la chronologie. C'est Chypre, ensuite en mars 2013. Donc, et en fait, il y a eu deux temps. D'abord, la Grèce, l'Irlande. Et ensuite, il y a eu un vrai stress quand, en 2012-2013, on a commencé à s'inquiéter pour l'Espagne et l'Italie. Et si vous prenez le taux de change de l'euro-dollar, où la crise avait commencé en avril 2010, l'euro-dollar était passé de 1,35 à 1,18. Ensuite, le plan de sauvetage, le plan d'action de la Banque Centrale Européenne, du FMI, lui, avait permis un beau rebond de l'euro-dollar à 1,47. Donc, vous voyez, la crise de la dette à l'époque en Europe, ça a été une période très volatile. D'abord, la Grèce et l'Irlande, ça drop de 1,35 à 1,15, donc 2000 pips. Plan de sauvetage, la BCE, le FMI, l'UE, rebond de 1,18 à 1,35. Et là, en 2011, c'est l'Espagne et l'Italie qui inquiètent, où on repère quasiment 3000 pips de 1,50 à 1,20. Et ensuite, petit à petit, avec la levée des plans de sauvetage, là, c'était la divergence des politiques monétaires avec la Fed. Rien à voir. Donc, la crise de la dette en Europe, ce fut à l'époque moins 2000 pips, rebond de 3000, remoins 3000 pips. Donc, ça crée de la volatilité, ça c'est certain. Et surtout à l'époque, cette crise de la dette en Europe concernait 6 pays en l'espace de 3 ans. Mais à l'époque, la France n'avait pas été touchée par la crise de la dette souveraine en Europe. Oui, ses taux d'intérêt avaient monté, mais la France n'avait pas bénéficié d'un plan de sauvetage du FMI, ni d'un plan de sauvetage de l'UE. Par contre, oui, la France, comme tous les États de la zone euro, avait bénéficié du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, qui avait donc acheté des obligations d'État pour stabiliser les marchés et faire en sorte que les taux d'intérêt ne montent pas sur des niveaux astronomiques. Parce qu'à un moment ou à un autre, la hausse du taux d'intérêt, au-delà de la lutte contre l'inflation qu'on connaît depuis 2002, sanctionne aussi un pays qui potentiellement est en faillite et ne peut plus faire face à sa charge d'intérêt, ne peut plus rembourser sa dette, et donc les taux montent, hein, parce qu'on se débarrasse de ses obligations. Puis parfois aussi, il faut avoir, si le pays est un danger, si le pays est mal noté, si le pays voit sa note dégradée, les taux d'intérêt montent pour attirer aussi les capitaux. Il faut bien rémunérer les risques, comprenez. Bon, mais à l'époque, la France, actuellement seconde économie de la zone euro, avait été épargnée. Ah oui, donc rappelons quand même qu'effectivement, lorsque je dis que si la France éternue, l'Europe s'enrhume, rappelons quand même que la France est là, alors 1, 2, ça ne compte pas 3, 4, 5, 6, alors 7e encore puissance économique mondiale. La France est la 2e économie de la zone euro. Et effectivement, la France est dans une situation budgétaire qui est compliquée, puisque le déficit budgétaire de la France en pourcentage du PIB, la France n'a pas eu un budget à l'équilibre depuis la fin des années 1960. La ligne de zéro est ici. Donc cette addition décennie après décennie du déficit budgétaire est venu créer ce qu'on appelle une dette publique. Et là, vous avez donc l'évolution de la dette publique française en pourcentage du PIB. Et ici, eh bien, alors, tout a démarré. Notez, la crise financière de 2007-2008. 2007-2008, ici, vous avez eu donc la crise de la dette souveraine en Europe, où là, vous avez donc essentiellement l'intervention de la Banque Centrale Européenne vers son programme d'achat d'obligations d'État. Mais dites-vous bien que si vous prenez, à titre de comparaison, la dette publique des États-Unis, voilà, ayez bien en tête que, à l'époque, cette crise de la dette souveraine en Europe avait, au préalable, en amont, les graines avaient été semées par la crise des subprimes de 2008. Et notez que, d'ailleurs, la dette publique des États-Unis en pourcentage du PIB, actuellement 119% du PIB, est même un peu supérieure à celle de la France. Mais tout de même, La France est donc dans une situation déjà d'important déficit budgétaire et d'une dette publique qui est importante. Et donc, en clair, le marché s'inquiète que si certains partis politiques, je ne ferai pas de politique ici, soyons clairs, on ne va pas faire de politique, ce n'est pas le sujet, mais tout le monde peut lire et accéder au programme. Il y a trois camps, hein. Extrême gauche, Macron, extrême droite. Tout le monde a compris que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, il y aura des conséquences sur les finances publiques du pays, à un moment où les agences de notation ont commencé, pas toutes, à dégrader celle de la France, la notation de la France, et à un moment où, justement, il y a, au sein de la zone euro, en fait, ce qui menace l'euro. L'euro, c'est plusieurs pays. L'euro est en risque de chute, c'est quand même le sujet de la vidéo, s'il y a ce qu'on appelle une divergence des conditions de crédit entre les États. Et on mesure ça par l'écart, la soustraction entre le taux allemand, donc le taux allemand c'est le plus solide, c'est le plus bas, donc vous prenez par exemple le spread entre la France et l'Allemagne, vous prenez le taux français moins le taux allemand. Si, je dis une connerie, si le taux français est à 5 et le taux allemand est à 4, le spread est à 1. Si le taux français monte à 10 et que le taux allemand reste à 4, le spread monte à 6. Plus ces spreads augmentent, plus il y a une hétérogénéité au sein de la zone euro, plus cela menace la structure même de fonctionnement de la zone euro, et donc menace l'euro. Et c'était à l'époque là que la BCE était intervenue. Regardez à l'époque ce qui s'était passé. Il y a plusieurs baromètres, je vais vous remontrer tous ces baromètres. Mais donc ici, voilà, vous avez donc l'historique à l'époque, c'était ce qui, voilà, la crise de la dette souveraine. Alors maintenant, passons en revue les différents baromètres du risque. Le premier de tous, dissolution française, le baromètre principal du risque pour le taux de change de l'euro, c'est le spread de taux d'intérêt obligataire entre la France et l'Allemagne. Alors, le spread de taux obligataire entre la France et l'Allemagne, il ne s'agit pas du taux d'intérêt de la France de manière absolue. Le taux d'intérêt de la France de manière absolue, c'est le FR10Y, vous l'avez donc sur TradingView. Donc là, c'était les taux zéro du Covid, la lutte contre l'inflation. Et donc, vous avez, depuis l'annonce de la dissolution française, voilà, vous avez eu une hausse du taux obligataire de la France de 3,05 à 3,33. C'est pas non plus la folie. Mais tout de même, il y a eu un stress. Non, en fait, si on regarde le marché, c'est quoi? C'est l'écart, c'est le spread, donc l'écart en point de pourcentage entre le taux français et le taux allemand. Et là, regardez, ce n'est pas anodin. Autant ici, de manière absolue, la hausse du taux français obligataire n'est pas non plus. On n'est pas monté à 10%. Donc, naturellement que oui, là, encore maintenant, alors on verra après les élections, mais les marchés financiers prêtent largement à la France. Il y a besoin d'un plan de sauvetage, d'une action de la Banque Centrale Européenne. Mais attention, attention, vous avez là l'écart relatif entre le taux obligataire de la France et de l'Allemagne. J'ai pris les taux à 10 ans. Je suis sur TradingView et je crée le spread en faisant FR10Y moins DE10Y. Sur TradingView, vous avez toutes les petites formules mathématiques de base. Et là, attention, le spread est de 0,77. Donc c'est-à-dire que le taux français à 10 ans est 0,77 points de pourcentage supérieur au taux à 10 ans allemand. Et là, nous sommes revenus sur un plus haut de 10 ans. Et regardez à l'époque la crise de la dette souveraine en Europe. La crise de la dette souveraine en Europe qui avait eu lieu de 2010 à 2013, le spread était carrément monté à quasiment 2 points de pourcentage au-dessus du taux allemand. Ça ici, cette envolée du spread, c'était les phases de chute ici, de drop de l'euro. En tout cas, l'impact sur l'euro, il est clairement volatile, parce que dans un premier temps, ça drop, ensuite vous avez des annonces. Imaginons, là je dis une bêtise, mais un parti d'extrême prend le pouvoir en France, en tout cas à Matignon, et le parti qui arrive au pouvoir fait de la dette à fond, ils s'en foutent complètement, ils partent dans tous les sens. Dans un premier temps, oui, l'euro va dropper, l'euro va sortir par le bas cette espèce de petite compression, mais dans un deuxième temps, il y aura un plan de soutien de la Banque Centrale Européenne, et là, le taux de change de l'euro remontera. Ça créera de la volatilité, probablement un drop dans un premier temps, de la vol. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer sur le plan politique. En attendant, l'euro, lui, reste enfermé dans une phase latérale. Alors, les récentes informations, l'incertitude, les sondages, car là, qu'est-ce qui va nous nourrir d'ici fin juin, les détails de programme des différents partis et les sondages. Cela nous a ramené dans la partie basse d'un trading range. Hein, mais il n'y a pas eu de cassure technique majeure. Bon, là, je m'égare. Je reviens donc sur le spread donc entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est une zone hyper importante à surveiller. Si jamais le spread devait casser à la hausse cette résistance vieille de 10 ans, oui, là, l'euro va être méga sous pression et il ira à 0,5. Ça, c'est le premier baromètre à surveiller. Deuxième baromètre, dissolution française, le taux obligataire de la France. Cette fois-ci, donc, le taux obligataire de la France de manière absolue. Alors, le taux obligataire de la France de manière absolue, vous l'avez sur TradingView, c'est FR10Y. Je vous l'ai mis ici en données hebdomadaires et à droite ici en données journalières. Il y a un seuil à surveiller, qui est le seuil des 3,24%. Vous voyez comme moi ici que c'est un seuil chartiste horizontal et qui correspond à la ligne de coût de ce qui fut ici, à la fin de l'année 2023, un double top, lorsque le marché a compris que nous entrions dans une phase de désinflation. Et là, on ne parle plus d'inflation, désinflation. En tout cas, en juin, c'est mis entre parenthèses pour laisser la place à cette incertitude politique. Et donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, notez que la résistance a été testée, mais pas dépassée. Il existe un vrai risque d'accélération à la hausse du taux obligataire de la France, qui ne manquerait pas de créer davantage d'écartement du spread avec le taux allemand qui lui corrige, parce que l'Allemagne est vue à travers son Bund comme un actif safe haven, valeur refuge, et mécaniquement donc, voilà. Deuxième baromètre à surveiller, cette résistance est 3,24%, 3,23-3,24%, parce qu'en cours de clôture, c'est plutôt c'est cette zone-là. Si le taux français dépasse cette zone, on va remonter ici à 3,60. Et là, ça va commencer à piquer pour les finances publiques de la France. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième baromètre à surveiller. Dissolution française. Dissolution française, troisième baromètre. Naturellement, l'analyse technique du taux de change de l'euro. Mais attention, je ne parle pas de l'euro-dollar. Je vais vous présenter ce qu'on appelle le XY. L'euro-doll est bien sûr à suivre l'euro-CHF. Le XY, qui est l'indice de devise. Alors justement, attention de ne pas faire de confusion. Donc, je reviens ici. Ici, vous avez sous les yeux le taux de change de l'euro-dollar en devise principale, l'euro, en contrepartie l'USD. Alors, effectivement, il a été mis sous pression. Et vous notez par exemple que mercredi dernier, il y avait eu un rebond de l'euro-dollar parce qu'il y avait aussi des informations sur l'USD. C'était la désinflation de l'USD. Comment est-ce que nous pouvons avoir une représentation de l'euro à proprement parler? Pas l'euro-dollar, mais l'euro. Eh bien, pour ça, vous avez sur les marchés financiers l'indice devise euro. Vous l'avez sur TradingView en gratuit. Son code, c'est EXY. Et vous pouvez faire de l'analyse technique sur le XY. Alors, on va jeter un petit œil. Donc, moi, ici, j'ai tout créé, j'ai tout un tas de trucs. Donc, je les ai rassemblés ici, mes indices devise. Vous avez même aussi le franc suisse en indice devise. Donc, EXY, voilà la gueule du machin. Alors, là, oui, ça ressemble bien sûr à l'euro-dollar, hein, mais c'est l'euro face à un panier de devises. Il n'y a pas que le dollar en face, il y a toutes les devises majeures, dites majeures du FX. Alors, notez que c'est intéressant, c'est que le taux de change de l'euro face à un panier de devises est dans une phase de compression, un trading range chartiste, alors, qui prend la forme d'un triangle symétrique, voilà, de base. Clairement, si la tension politique et les perspectives économiques devaient monter, devaient inquiéter la finance mondiale, le risque pour le taux de change de l'euro est de sortir par le bas de cette phase de transition latérale. Pour le moment, en ce début de semaine, alors que nous sommes à 2 semaines des élections législatives en France, le marché n'a pas quitté cette bande, n'a pas quitté la bande basse. Mais il y est revu avec fracas, avec des gaps. Donc attention, ça c'est vraiment le seuil à surveiller. Au minimum, si l'euro index casse cette zone, il revient là. Il revient là. Alors, il revient là au minimum s'il casse cette zone, ce qui signifie que l'euro-dollar, en fait, le seuil de rupture pour l'euro-dollar, pour l'instant, le marché tient, quand j'enregistre la vidéo. C'est cette figure chartiste, mais c'est surtout ce niveau-là. Vous voyez bien, hein, c'était un niveau à l'époque du Covid. Seuil de décrochage, seuil de remontée. Donc c'est vraiment le niveau horizontal le plus important à suivre. Il est à 1,0630. Donc en clair, si jamais la haute finance devait s'inquiéter du dérapage des finances publiques françaises, de façon de parler, c'est un euphémisme, hein, parce que ça a dérapé depuis longtemps. Bon, mais ok, mais un méga nouveau dérapage. Le seuil de chute, c'est 1,06-1,0630. Le seuil de décrochage de l'euro-dollar, c'est 1,06-1,05. L'euro est-il en risque? L'euro est en risque, je vous ai expliqué. Oui, si le spread de taux avec l'Allemagne dépasse cette zone. L'euro est en risque, oui, si le taux obligataire français dépasse la résistance que je vous ai montré. Et si ces éléments sur le marché du crédit interviennent, eh bien, l'euro brisera cette zone technique, et c'est le troisième baromètre à surveiller. Si l'euro devait briser ce seuil des 1,06, 1,0630, il irait minimum à 1,05 et même probablement chercher les 1,0340. Donc ça, c'est vraiment, ce sont les baromètres de marché technique à surveiller sur le taux de change de l'euro. Alors, ensuite, oui, le franc suisse, on a profité. Le franc suisse, d'ailleurs, avait rejoint cette résistance technique 1 point, 2 points, j'existe, je double-clique et je prolonge, ce qui venait à taper stop de marché. Voilà, l'euro CHF, vous avez cette zone ici que le marché teste, des 0,95, 0,94. Vous voyez, c'était cette zone où on avait un bear trap, on avait repris. Le vrai risque à la baisse sur l'euro CHF, ce serait d'enfoncer les 0,94, 0,95. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et en fait, finalement, cette zone des 0,94, 0,95 sur l'euro CHF, c'est la traduction de cette zone des 1,06, 1,0630 sur le taux de change de l'euro dollar. Dissolution française. Baromètre des risques, le positionnement institutionnel sur le taux de change de l'euro-dollar. Alors, la question est, est-ce que les instits se sont mis à shorter l'euro? Il y a deux soucis, il y a une réponse et un souci. Une réponse, nous avons pour ça chaque semaine le rapport Commitment of Traders, qui nous donne le positionnement institutionnel sur l'euro-dollar des traders de hedge fund et des asset managers. Très bien. Le problème, c'est que les données sont en retard. Et les données les plus récentes que j'ai datent de mardi dernier. Donc, juste après l'annonce de la dissolution. La haute finance ne s'inquiétait pas trop. Mais il y a eu un début de mouvement de vente. Mais malheureusement, j'aurais besoin d'attendre vendredi pour avoir les données les plus récentes. Donc, je vous actualiserai ça la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que j'ai quand même à vous montrer? Ça date de mardi dernier, donc c'était deux jours après l'annonce de la dissolution. Il y a eu un tout petit rebond de l'augmentation des positions shortes. L'histogramme en orange, ce sont les positions short. Et une toute petite baisse de la position nette, l'écart entre les longs et ça. Donc, il y a un début d'inquiétude, mais c'était mardi dernier. Donc là, c'est un baromètre intéressant, mais il va falloir attendre la fin de la semaine et je vous l'actualiserai quand j'aurai les datas les plus récentes. Donc, patience. On fera un point la semaine prochaine. Dissolution française, les baromètres du risque. Et oui, on a tous compris. Le CAC 40, le CRAC 40. Écrivent les petits comiques. Le CAC 40. C'est vrai que, je vous en ai parlé dans Top Gun, quelle divergence depuis la semaine dernière entre le S&P 500, enfin le S&P 10, on est d'accord, hein, et le CAC 40. En même temps, peut-on comparer les choux et les carottes? Non. Alors, peut-on comparer le S&P 10 et le CAC 40? Non plus. Mais, par contre, il y a un effet d'entraînement sur les indices européens, donc ça, c'est important à suivre. Le CRAC 40, notre ami le CRAC 40, deux hypothèses. En cas de poursuite et de développement jusqu'à la fin du mois de juin de cette inquiétude de la haute finance, en cas d'augmentation du spread de taux, d'augmentation du taux français, de cassure sur l'euro, je vous ai montré, donc tous les seuls techniques que je vous ai montré, cela va mettre la pression sur le CAC 40, qui est revenu sur une zone importante, ici, une zone de confluence chartiste, à 7400 points. Deux hypothèses. Elle tient, on tient cette zone pour l'instant. Quand j'enregistre la vidéo, rien n'indique. On n'a même pas de divergence en daily. On travaille la zone. Un signal de reprise, ce serait de redépasser la moyenne mobile à 200 jours. Tant que CRAC 40 reste sous cette moyenne mobile à 200 jours, il est en correction. Vous prenez ensuite un graphique de plus long terme. Si les 7004 ne tiennent pas, le marché reviendra sur son ancien record historique à l'époque de la fin du début des années 2000, c'était l'apogée de la bulle spéculative 2.0, datcom, et le CAC retombera à 6950. Donc, en gros, hypothèse 1, on tient cette zone des 7004 et on arrive à reverser, à redépasser MM200. On brise la zone avec l'écartement des spreads. N'oubliez pas, tout ce que je vous ai montré en début de vidéo sur les taux d'intérêt. Si ça dépasse les résistances, notamment sur le spread France-Allemagne, ça ne va pas tenir et on ira à 7000. Donc, c'est le dernier truc, le dernier baromètre à surveiller, chers amis. Et puis donc, mettons un like à ce monsieur sans cheveux. Et nous continuons de suivre tout ça. Mais si vous devez retenir une chose après ces 30 minutes de blabla, c'est bien sûr l'aspect historique. Qu'est-ce qui s'était passé dans la crise de la dette souveraine entre 2010 et 2014? Et une deuxième chose à retenir, uniquement le spread d'auto entre la France et l'Allemagne. Tout le reste, vous pouvez oublier, c'était pas intéressant. Merci à toutes et à tous et bonne semaine.